Il faut sourire quand on dit que les modernes ne sont pas superstitieux. Je ne sais pas si vous n'avez aucune idée à quel point ils sont imprégnés d'astrologie de bas étage. Chacun se jette sur les signes. Il y a des astrologues sérieux, des savants, mais ils ne tombent pas là-dedans. Vous savez, en général, ce sont des faussaires qui écrivent ces petits machins-là. Et les gens y croient. Ils y croient. C'est des croyants. Et en général, les juifs sont tellement croyants qu'ils croient à n'importe quoi. Bon, alors je reviens à vous. C'est ma minime. Alors oui, il y a toute une série d'approches du même problème. Eh bien, nous allons voir un peu plus en détail comment on parle le midrash. Le premier midrash que j'ai choisi, c'est un midrash de Rabbi Yirmiya ben Elazar. Et vous allez prendre le premier verset qu'on a lu, c'est-à-dire le premier verset de Acharemo. Alors, je vous lis le midrash, mais prenez le premier verset de Acharemo. Bishnul Arba'a Devarim, c'est pour quatre raisons. Metu banav shel Aaron, que les fils d'Aaron sont morts. À la kriba, en hébreu israélien. Kriba, en prononciation israélienne. Kriba, c'est le fait de s'approcher, de se rapprocher trop. Vers la keraba, le fait d'avoir approché quelque chose qui n'était pas demandé. Vers l'eshzara, le feu étranger. Veal shelo natlu etza zemise. Et là, il y a une indication supplémentaire qu'on n'a pas encore vue, et parce qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. C'est-à-dire, ils ont eu de façon parallèle, et on le voit dans le texte d'ailleurs, Malbim a tout un chapitre sur le verset dans Shemini, Shene ben Aaron, les deux fils de Aaron. Pourquoi on a besoin de Shene ben Aaron? Les fils d'Aaron, on sait qu'ils étaient deux dans l'histoire. Okay? C'est-à-dire, chacun a eu une initiative individuelle et ça en a fait deux. C'est déjà une petite indication, mais il y a plus, qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Alors, le détail. À la Keriba, le fait qu'ils se soient approchés chez Nifnesu, Nifna et Velifnim, ils sont rentrés jusqu'au sein des saints, là où le grand prêtre n'a le droit de rentrer que le jour de Kippour. D'où dans notre paracha, le fait que les dispositions du sacrifice du jour de Kippour sont données juste après, dans Acharemon. Vers la Akrava, le fait d'avoir approché quelque chose d'autre, chez Ikrivu, Korban, chez Lonistavu, parce qu'ils ont apporté un sacrifice qui ne leur avait pas été commandé. À l'Eshzara, Esh mi bet akiraim irnissu. Ils ont fait entrer dans le Saint des Saints un feu d'un hôtel, mais d'un hôtel qui devait rester extérieur. Je voudrais. Est-ce que j'ai fini les quatre? Non. Je vais finir le quatrième. Vers chez l'eau, Natlou et Tzazemise. Et la quatrième raison, qu'ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Alors là, ça se rattache à un principe très important. Tu vas me rappeler d'ailleurs le verset. Et que le Talmud dit qu'il est absolument interdit d'étudier tout seul. Tu te rappelles de ce texte? Bad Bebad, Levad. Al-Abadim, sur un verset de la construction du temple du Mishkan, Al-Abadim. Levad, ça veut dire tout seul. Dans son fort intérieur. On doit toujours étudier avec un chaver, ça s'appelle une chavruta, avec quelqu'un d'autre, de telle sorte de pouvoir se vérifier l'un l'autre et s'aider l'un l'autre. Celui qui croit qu'il peut étudier tout seul est en réalité un incroyant. Ça veut dire il se conduit comme si Dieu n'avait révélé la Torah que pour lui. C'est la plus grande des hérésies. Vous savez qu'on disait en français, sont les gens qui veulent rentrer à Paris que par la porte dauphine. Ils se prennent pour le dauphin. Les autres, ça n'existe pas. Vous connaissez ça? Effectivement, c'est très significatif. Quelqu'un, un égocentrisme tel que c'est plus la Torah. Bon, pardon? C'est clair, ce que j'enseigne là, c'est très important. Okay. Vous avez une page dans Ktuvot. On exhorte les gens de Khutz Laaret de monter en Eretz Israël pour étudier la Torah. C'est donc tout votre page 111, je crois, à peu près. Et alors, à l'époque du Talmud, à l'époque de Rabbi Yochanan, on voit qu'en Chutz La'aret, il y avait déjà, à cette époque-là, cet alibi de ne pas venir en Eretz Israël, c'est parce que je suis dans une grande yeshiva. Vous connaissez ça, hein? Eh bien, la Gemara dit, et si tu dis qu'il n'y a pas de maître pour toi en Eretz Israël, alors sache qu'il y en a un, et bien dans tous les cas, si tu ne montes pas, divise ton temps en trois. Vous connaissez, vous rappelez de ça? Un tiers Torah, un tiers Mishnah, un tiers Gemara. Bon, c'est une souvia extrêmement importante, mais dont le principe d'enseignement est que, dans tous les cas, il faut monter en Eretz Israël pour étudier la Torah. Et alors ça s'adresse directement à ceux dont la raison pour laquelle ils ne montent pas se réfère à étudier la Torah. Je vous dirais même, il y a une tradition chez les chassidim, une très belle tradition. Vous savez que dans chaque communauté chassidique, il y a le tzaddik, qui est vraiment le chef spirituel de la communauté. Eh bien, chaque chef spirituel, chaque tzaddik chez les chassidim avait, enfin dans les temps où les cours des chassidim étaient ce qu'elles étaient, chaque tzaddik avait un rabbin personnel, et c'était en général un de ses paroissiens les plus pachoutes, qui lui faisait une heure de morale chaque matin, et pour pas qu'il se prenne pour l'unique. Je ne sais pas si c'est clair. Vous voyez à quel point ça manque. Ça me rappelle ce que disait une fois le pape Jean XXIII, je viens d'export chassidim, mais c'est différent. Il disait, quand il était encore cardinal, il disait, chaque fois que j'avais un problème grave à résoudre, je ne dormais pas. Et puis je me disais, bon, et bien demain matin, je demande au pape. Et là, il est devenu pape. Et alors, il avait un problème grave à résoudre, et il s'est dit, demain matin, je demande au pape. Et si je me disais, mais c'est moi le pape. Alors, il s'est fait désigner un moine pour lui demander conseil. Ça, c'est un vrai pape. Parce que les gens qui croient qu'ils n'ont pas de sous-pape, enfin de sur-pape, n'ont pas trop. Voilà donc le quatrième enseignement qui est donné. Maintenant, on va donner l'argumentation pour le quatrième. Chez l'on naklo et tsaz et mise. Ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre et les deux. Mirchelou, on dit Mirchelou, sont tombés dans un piège. Les deux ont trébuché. Chez Neymar, ainsi qu'il est dit, d'ailleurs dans la Pacha de Chemini, suivez bien le verset, on l'a vu tout à l'heure. C'est le chapitre 10, verset 1. Vaikru benéaro Nadav Abihu, Ish Martato. Et les deux fils de Aaron, Nadav et Abihu, prient chacun son encensoir. Pourquoi chacun son encensoir? Ils prient leur encensoir. Alors c'est pour indiquer que chacun a une initiative tout seul, l'un et l'autre parallèle et en même temps. Ish me atzmo asu, chacun l'a fait de lui-même. Shelo naklu etza ze mise. Ils n'ont pas pris conseil l'un de l'autre. Je continue ce midrash, c'est important d'écouter la suite et ne pas croire qu'au niveau où ils étaient, Nadav et Abihu, leur faute est une faute, la faute des prêtres, mais très haut. Il faut être à leur niveau. Pour être capable d'une faute pareille, disons être dans le cas d'une faute pareille, il ne s'agit pas de les mépriser comme si c'était des petits paroissiens qui se sont mal conduits. C'est clair ce que je veux dire. C'est d'ailleurs ce que Judas Lévi disait de la faute du Vaudor. Il faut juger cette génération au niveau où elle était et pas croire que c'était des païens idolâtres de bas étage. Voilà ce que dit Rabbi Yirmiyah ben Elazar. Le même Rav, quatre endroits dans la Torah est mentionné la mort des fils de Aaron, et à chacun de ces endroits, on rappelle leur trébuchement, le mot est plus grossier, pas grossier, le mot est plus dur là, leur tamiham chez sarah, c'est plus que chuter. Bon. Ceux qui comprennent le mot en hébreu, je ne sais pas comment traduire. Ils sont mal conduits. Kol kach lama, et cela pourquoi? Le odiacha, sheloya beyadam, et la avanze bilvan. Pour que tu saches qu'ils n'ont fait que cette faute. Ne crois pas que c'était des. Bref, vous avez compris? Alors c'est pourquoi à chaque fois on rappelle ce qui est arrivé. On l'a rappelé de quatre manières différentes. C'est pourquoi il y a des thèses différent. Amar Rabbi Elazar Modari, et Rabbi Elazar Modari dit, Bouré Kamamitatan ben Aaron et Kara Lifna Kazuor. Viens voir combien la mort des fils de Aaron a été précieuse, je traduis littéralement, aux yeux de Dieu. Chez Komakom, chez Maskir Mitatan, Maskid Sulchanam. Parce que chaque fois qu'ils mentionnent leur mort, ils mentionnent leur faute. Kolkarama, et pourquoi? En vue de quoi? Léodi Racha, c'est pour te faire savoir, chez Loïe Pitrompe le Bayerolam, qu'il n'y ait pas, comment dire, Pitrompe en français, on n'est pas l'initiative à quiconque, Bayerolam, ceux qui viennent au monde, l'Omar, Mahasim et Kulkalim, Ayoube Yadam, Bessaket, qu'ils avaient des actions mauvaises en secret, et qu'ils sont morts pour des choses plus graves, pour des choses honteuses, secrètes. Voilà, c'est le premier midrash. Je crois que il parle par lui-même. Vous voyez la première analyse qui a été faite de ce problème. Je vais vous en lire un autre. Bar Kapara Beshem Rabbi Yirmiya Ben Elazar Amar, on en cite au nom de Rabbi Elazar. Bishvil, ah non, ça c'est ce que je viens de dire. Je vais lire le deuxième. Tane Rabbi Eliezer, on a cité à l'école de Rabbi Eliezer, l'homme et tout banal chez Aaron, les fils de Aaron, nous ne sommes morts, et là, Ali de Shehoru, Alacha, Vishne, Moshe, Rabban, que parce qu'ils ont enseigné la Alacha devant, en présence de Moïse, leur maître. Umarase, Betalmid, Echad, et on raconte le cas d'un élève, Asher, Hora, Lifne, Rabbo, Rabbi Eliezer, qui a enseigné en présence de Rabbi Eliezer, son maître. Amar, Rabbi Eliezer a dit, Leima shalom ishto. Littéralement, ça veut dire, oi, qu'est-ce qui va arriver à sa femme? Pourquoi sa femme? Cherchez la femme. Si ça vous intéresse, on fait le lien, mais enfin, je crois que ça va. Ça veut dire, quelqu'un qui se conduit comme ça, c'est qu'il n'a pas une femme qui lui sert de garde-fou. Ça suffit comme explication, c'est clair. Vous savez que de garde-fou, comment dire, garde-fou, de tuteur, de tutrice, quoi. Écoutez, le Talmud dit, là ça c'est un autre sujet, mais il faut le découvrir, ça va faire plaisir aux féministes. Le Talmud dit, un homme ne devient que ce que sa femme lui permet de devenir. Et on parle des hommes et des femmes, vraiment, quoi. Et effectivement, et on apprend d'ailleurs ça d'Abraham et de Sarah. Abraham est ce qu'il est grâce à Sarah. Et le verset dit, et il y eut du bien à Abraham, Barabula, grâce à elle. Vous voyez, à chaque fois que les rabbins parlent de ça, ils disent, faites attention à votre femme si vous voulez être heureux. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais ça doit servir à quelqu'un. Alors je reviens au sujet. Et il est Ishto Shelze. Et pourquoi la femme de celui-là? Eno Motsi Shabbato, il n'a pas fini sa semaine. Il y a une autre Girsa qui n'a pas fini son année. Loba Shabbato Hachemel, il en est mort. Ça veut dire, sa femme était responsable, mais c'est lui qui est mort. Nichnesu Harami Metlo Amrolo. Alors les sages sont entrés chez Rabbi Eliezer et ils ont dit, Nabiata, est-ce que tu es prophète? Amalahem, il leur a répondu non. Je ne suis pas prophète et ni fils de prophète, et la kar mekublani, mais voilà, ainsi j'ai reçu par tradition que la morée à la khalif nerabo, celui qui enseigne en présence de son maître, hayab mita, est passible de mort. Et alors, si c'est vraiment un maître, si c'est vraiment un élève, si c'est vraiment qu'on a enseigné à la khalif devant son maître, si c'est sérieux tout ça, alors c'est sérieux qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et inévitablement, ce qui arrive, arrive. Je vous dis encore un autre midrash dans ce sens-là. Tane Rabbi Elazar, on enseignait cette fois à l'école de Rabbi Elazar, plus Rabbi Eliezer. Assur le Talmud le Horot Lifne Rabo, Achi Rachok Lo, Shne Masar Mil, Kemachane Israël. Il est interdit à un élève d'enseigner en présence de son maître jusqu'à ce qu'il soit éloigné de lui 12, disons, kilomètres, un mille, okay, comme la longueur du camp d'Israël. Oui, à quel point c'est strict. Et à quel point il y a des désordres quand ces choses-là ne sont pas observées. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, je referme la parenthèse, je continue. sur le sujet. Voilà les différentes approches du même problème que je voulais vous citer. Et ça, c'est pour la paracha de la Haremot. Vous voyez, on a chaque fois le temps que de voir un petit point d'un petit point d'un morceau de verset. C'est pour ça que je vous demande instamment de lire les textes avant de venir étudier. Regardez à quel point l'envergure des générations a diminué. Dans les générations, il n'y a pas si longtemps que ça, le vendredi avant Shabbat, on lisait deux fois le texte en hébreu et une fois en targoum pour se préparer à la lecture du Shabbat. Tout le texte. Et nous, on a le temps de voir un débris de versets. Et puis, assez récemment, on a autorisé de remplacer une fois en targoum par la lecture de Rashi. Vous connaissez ça, Ken? Shnaïm Mikra Bechatou. Oui, vous entendez, il y a une synagogue qui fait ça. Je connais laquelle d'ailleurs. Oui, je la connais. Non, vous savez, il y a beaucoup de synagogues sérieuses à Jérusalem. C'est la ville au monde où il y a plus de synagogues au kilomètre carré. Et bientôt de mosquées. On va être obligé d'acheter des mosquées pour ça. Bien, alors voilà, quel avait-il pour que je sache combien de temps il nous reste? Ouais, ben. Alors vous avez la parole si vous avez des questions. Je suis persuadé que vous allez réagir sur tout ce qu'on a appris. Si vous n'avez pas de questions, ce sera un grand compte. Ben. Écoutez, je vais vous dire, le en tout cas est délicieux. Je veux dire, la règle, comment elle est? C'est a priori interdit, sauf pour un certain nombre de cas, et on cite à travers les siècles quelques rabbins qui étaient dans ce cas, où leur maître savait qu'il n'était pas mariable pour des raisons physiques. Alors c'est autorisé. Physique, psychique, mais c'est la même chose, physique et psychique. Mais c'est très très rare, très très rare. Je veux vous dire. La règle qu'il y a là, c'est que il est interdit de s'approcher de quoi que ce soit qui concerne le culte à Dieu si on n'est pas marié. Et ça, c'est la règle de la Torah juive. Okay. Et je veux dire, quand ça va très loin, par exemple, un chazan, pour les Yamim Noraim, Roshana et Kippour, non seulement il doit être marié, mais il faut qu'il ait déjà trois enfants. Sinon, il ne laisse pas faire la prière pour la communauté. Il y a certains haftarot qu'on ne donne pas à des gens non mariés. Nous vivons dans un temps où l'envergure psychique individuelle est tellement diluée qu'on ne réalise pas très bien de quoi il peut s'agir. Mais la loi a été donnée pour des générations où vraiment l'envergure psychique était sérieuse. Et alors ces choses sont très importantes. Et surtout la manière dont le Shulchan Aruch explique pourquoi. Je vais un peu imaginer. Parce que c'est quand même des sujets un peu délicats. Quand quelqu'un qui n'est pas vraiment entré dans l'histoire d'un couple avec l'amour pour sa femme dit à Dieu qu'il l'aime, c'est suspect, c'est ambigu. De qui il parle, consciemment ou inconsciemment? De sa femme qu'il n'a pas ou de Dieu? Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Et inversement d'ailleurs. Et inversement, ça revient au même. Une minute. Je me souviens, il y a très très longtemps, il faudrait que je me rappelle. Ça y est, je me rappelle de qui il s'agissait. Vous avez peut-être entendu parler d'un grand maître qui a eu juste après la guerre, qui était très spécial. C'est Shushani. Ça vous dit quelque chose, Shushani?
Oui.
Et je me rappelle qu'une fois, juste quelques temps après la guerre, je l'ai bien connu, et j'ai eu le privilège de le connaître d'ailleurs. Il aimait mettre les gens dans sa poche. C'est une science faramineuse, une mémoire qui n'existe pas. Et vraiment une intelligence. Ça dépasse le commun. Je ne sais pas si c'est vraiment c'était un homme ou autre chose, pour vous dire. Hein? Oui, on se doutait. Moi, je vais vous dire un peu mon avis, puisque vous l'avez connu. Oui. À l'accent, il était lituanien. Ça, c'est évident. Son accent hébreu, c'était lituanien. Litvak, dommage. Ou alors, c'est qu'il a appris dans une yeshiva litvak. Et il est fort probable, c'était un prodige, que dans ces yeshivas, il n'avait personne à qui parler, alors il est devenu fou. Mais il devenait fou. Mais bon, on vous parle de quelqu'un qu'on n'avait pas connu, c'est très respectable. Il y avait des gens qui disaient il est 50% fou, 50% génie. C'est pas vrai. Il était 100% génie et 100% fou. Bon, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai fréquenté pendant un an. Admirez ma patience. Parce que comme vous savez, pour le judaïsme, il faut deux vertus, la science et la patience. En tout cas, pour revenir au sujet, il aimait parfois mettre les gens dans sa poche. Alors il avait appris que dans une synagogue, je veux dire, je ne sais plus si elle existe encore, la rue Blanche, ça vous dit quelque chose? Il y avait un mohadon de la communauté sfarade turque, de la rue Saint-Lazare. Eh bien oui, vous avez dû connaître la rue Blanche. Ah ben très bien.
Moi, j'avais
vu comme un cours, maître. Oui. Eh bien, c'était le même milieu. Et alors, une fois, c'est le, je sais pas comment dire, le comité culturel de la rue Saint-Lazare qui avait leur mohadon à la rue Blanche, en plein Pigalle, quoi, je sais pas comment dire. Je vous raconte une blague. Avait invité un prêtre à faire un exposé sur le Cantique des Cantiques. Et alors, un exposé sur le Cantique des Cantiques. À la fin de l'exposé, Chouchani qui se lève et qui dit « Dites-moi la vérité, comment vous savez ces choses-là, vous êtes célibataire ?» Bon, toute la salle s'est esclavée. Pour vous dire, pour aller dans le sens de votre question, quand quelqu'un parle de l'amour de Dieu, mais qu'il a pas vraiment vécu l'amour d'une femme, on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle de ce qui lui manque ou est-ce qu'il parle de ce qu'il peut parler vraiment? C'est clair, ce que je dis là. C'est pourquoi, dans le judaïsme, un célibataire, on ne le laisse pas, c'est respectable, on ne le laisse pas s'approcher du culte. Parce qu'il y a quelque chose d'ambigu, il y a quelque chose de... À moins que... Un veuf, c'est autre chose. À moins que c'est un cas particulier, et nous avons les critères dans le Talmud, un cas particulier, et nous avons de grands rabbins qui sont dans ce cas, mais quelques-uns en 20 siècles. Ce qui fait que moi, j'ai toujours été perplexe vis-à-vis des prêtres catholiques en particulier, à cause de ce problème. Quoique, il faut dire qu'il y a une différence chez les prêtres catholiques entre le vœu de chasteté et le vœu de célibat. C'est pas la même chose, quand même. Okay, mais il ne faut pas accuser les gens de choses dont ils ne sont pas à être accusés. Seulement, je parle du célibat, vraiment. Quelqu'un qui est seul dans la vie, ça va pas avec en compagnie du bon Dieu. Je sais pas comment vous dire, mais vous êtes juste, vous comprenez ça par vous-même. Bon, non, je parle pas des divorcés ou des veuves, hein. Je parle des célibataires. Et alors, j'ai toujours dit ça à mes amis curés que je comprenais pas cette lignée, cette dynastie. Où on est célibataire de père en fils. on revient. Mais le fait que les rabbins du Midrash ont épinglé cela à Nadab et Abihu, c'est pour indiquer une... Oh, je m'aperçois que je vous ai oublié l'essentiel dans l'attente que je retrouve. C'est quand Nadab et Abihu venait derrière Moïse et Aaron et disait: quand est-ce que ces deux vieux vont mourir, qu'on puisse les remplacer? Et ça, c'est très typique de la faute d'impatience. La faute d'impatience, ça nous a coûté cher depuis le premier homme. Les fautes graves, c'est des fautes d'impatience. C'est l'expression talmudique, c'est « achla paga ». Tu vois ce que je veux dire? Et alors, c'est pas uniquement, il faut comprendre les choses au niveau où étaient Moïse, Aaron et Nadab et Abihu. C'est pas du tout uniquement et uniquement une révolte des générations à quoi on joue. Et je vais vous dire l'enseignement du Rav Ashlag à ce sujet. C'est que tu es un très grand kabbaliste contemporain. Et c'est que Moïse et Aaron, et vous voyez, c'est le modèle de ceux qui étudient ensemble. Là, j'arrive à une question qui était posée au début, en parenthèse. Lorsque la révélation se faisait, elle se faisait simultanément à Moïse et à Aaron. Et alors Moïse demandait à Aaron: qu'est-ce que tu as entendu? Et Aaron demandait à Moïse: qu'est-ce que tu as entendu? Pour vérifier s'ils avaient entendu la même chose. C'est comme ça qu'on étudie. C'est la Havruta. Quand le maître enseigne, chaque élève écoute, entend une chose différente. Ça, il faut le savoir. Enfin, les maîtres le savent. Et alors, pour arriver à réintégrer en quoi que ce soit le contenu de l'étude, il faut que les élèves se demandent, allez, en commun, on va voir qu'est-ce qu'on a entendu. Et on n'a aucune idée à quel point, de la même parole, les gens entendent des choses différentes. Il y a une différence entre entendre et écouter, comme disent les psychologues. On peut écouter sans entendre. Et on entend autre chose, on entend des voix. C'est pourquoi je vous demande très, très souvent de ne pas m'interrompre, même pas par un signe, au milieu d'une phrase. Parce que je suis pas le seul, c'est comme ça, le professorat, surtout dans ces choses-là. Je suis dans la situation de quelqu'un qui doit se mesurer à autant d'échiquiers qu'il y a d'élèves dans la salle. Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge, ça m'envoie rien. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis là. Vous avez remarqué pourquoi de temps en temps je tourne la tête pour voir ce qui se passe sur la figure de chacun. Bon, quand vous serez enseignant, vous en aurez l'expérience. Voilà, en ce qui concerne Nadab Abihu et Moïse et Aaron, c'est pas seulement une révolte de génération. Tout à l'heure en passant, j'ai dit qu'on rencontre un épisode mai 68 dans le Midrash. C'est le fait que la Hanhaga, la manière de diriger le peuple de Moïse et Aaron, était les filles Midat al-Rahamim, par la médiation de la miséricorde. Et alors, nous avons eu dans la génération présente le privilège d'avoir deux Talmidei Chachamim qui ensemble reproduisaient d'une certaine manière ce couple Moïse et Aaron. C'est le Rav Kook et son élève préféré, le Rav Harlap. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Rav Harlap, c'est un grand. Et alors, il y a une rue du Rav Harlap. Et alors, c'était vraiment un grand. Et un peu éclipsé par le Rav Kook, mais. Les deux formulations du même enseignement, et elles se complètent dans ce sens de Chesedim qui ensemble sont Rachamim. D'ailleurs, le Rav Kook lui-même s'appelait Abraham Yitzhak. C'est très symbolique. Et Abraham et Yitzhak. Et Cohen. Et puis, alors que Nadab et Abihu, c'était l'entièreté de l'adolescence, la Midat Adin. C'est-à-dire, c'est pas comme ça qu'il faut diriger le peuple. Quand est-ce qu'on va les remplacer et ils verront qu'est-ce que c'est diriger le peuple. Vous avez compris, c'est pas stable. Quoique, chez tout un chacun, ce que je viens de dire sert souvent d'alibi à des passions. Hein. On se réfère à des idéaux, on se réfère à des motivations désintéressées apparemment, mais ça cache en réalité des passions du premier genre. Et bien c'est clair ce que je veux dire. Hein. Alors vous voyez, la sagacité de l'analyse du Midrash qui va directement à l'essentiel, voilà ce qu'il y a derrière cette histoire de des enfants de Aaron. Oui, le maniement des choses de la sainteté, c'est pas simple. Il faut un scrupule et une lucidité très grande et ne pas risquer de tomber dans la scrupulite et dans l'enthousiasme, dans l'enivrement. Je ne veux pas citer toutes ces formules qui sont en contestation de la tradition juive et la tradition chrétienne à ce sujet. C'est le gros du débat profond entre théologiens juifs et chrétiens. Le sentiment est absolument nécessaire, mais s'il n'est pas contrôlé par la loi, c'est la catastrophe. Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. S'il n'y a pas la foi, il n'y a rien. Mais s'il n'y a pas la loi, alors on est sans foi ni loi. Bien, voilà, je ne pense pas entrer dans le deuxième sujet parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous avez des questions.
Comment Moshe et Aaron n'ont pas senti cet esprit de révolte chez les gens
de la vie, et leur donner une question. Oui, enlever le mot révolte, hein, on sait que c'est autre chose que révolte. Mais je veux dire pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Moïse et Aaron ont été les maîtres de la génération de la sortie d'Égypte. Et très rapidement, ils ont quitté le peuple. Ils se sont distanciés du peuple, les exactement. Et c'est, la génération a changé. Ils étaient inadaptés, si mais par en haut, à la génération d'après, plus bas. Et c'est pourquoi, par exemple, une chose qui est très peu connue, c'est que Moïse n'a enseigné le peuple que 2 ans et demi, dans les 40 ans du désert. Ensuite, il s'est séparé, il a pris sa tente et il s'est mis à côté du camp d'Israël. Et c'est Josué qui était son porte-parole. Et ce n'est qu'à la fin de cette génération, le livre de Devarim, qu'il a parlé aux enfants des enfants d'Israël sortis d'Égypte, au bout de 40 ans. De la même manière, Aaron les a quittés très tôt. Ça veut dire que, je vais vous donner l'exemple où on apprend cela de manière très très centrale. C'est que chaque fois qu'il y avait une turbulence dans le peuple, c'est dans l'histoire des 10 épreuves pendant les 40 ans du désert, à Saranissou, okay, Moïse intercédait pour le peuple. À la dernière fois, il n'a pas intercédé, il s'est mis en colère, une sainte colère. C'est l'histoire de la deuxième fois le rocher pour l'eau, il a frappé le rocher en disant « Shemona Amorim ». Dieu se révèle à eux, à Moïse et Aaron, dit « Vous ne pouvez plus diriger le peuple ». Vous comprenez la scène, je résumais, mais c'est le problème. Okay. Alors il faut passer le relais à plus bas. Ils sont trop hauts pour l'état de cette génération. Et alors, là, je vous ai une parenthèse, si on a un peu de temps. Ça m'en fait de vous parler d'un grand homme dont j'ai été l'élève, c'est le professeur Baruch. Vous avez entendu parler du professeur Baruch? Et c'était le grand intellectuel juif juste après la résistance. Okay. Ensuite, on a eu le grand professeur. Mais à l'époque, c'est le premier universitaire qui parlait intelligemment des choses de la Torah. C'est-à-dire le professeur Baruch, le psychiatre. D'ailleurs, pour le remercier, on disait toujours « Baruch Atta ». Il ne se mettait pas en colère. Je vais raconter une petite histoire avant de raconter. Il s'agissait, rappelez-moi, la colère de Moïse. J'allais très souvent à Sainte-Anne, pas pour me faire soigner, mais pour étudier avec lui. Et alors... il avait l'habitude, tous les jeudis après-midi, de descendre de son bureau et de rentrer dans sa voiture personnelle. Et il disait à son chauffeur, chez maman, je ne sais pas si vous avez connu le voisin Baruch, une tête de gendarme français du sud de la France, avec les moustaches caractéristiques, et une voix fluette. Alors ce jour-là, il s'est trompé. Au lieu de rentrer dans sa voiture, il est rentré dans un taxi. J'ai assisté. C'est pas l'homme qui a vu l'eau. J'ai assisté. Et alors le chauffeur l'a regardé, il dit « Oui, monsieur, il a pris son volant, il a rentré dans l'hôpital. » Imaginez la scène. Et alors, le professeur, Baruch, lui était dans les nuages, il s'est plongé dans ses notes, il se retrouve en cabinet avec ses assistants, effaré. Alors, le professeur Baruch, il nous citait l'enseignement de Maïmonide, selon laquelle, qui se base sur un texte du Talmud important, la colère empêche l'inspiration, empêche la prophétie. Celui qui se met en colère perd sa Torah, dans le moment de sa colère. Et il expliquait, selon Maïmonide, que la sainte colère de Moïse, au moment où on lui réclame de l'eau, c'est ça qui l'a disqualifié. C'est ça la faute qui l'aurait empêché d'entrer en Eretz Israël. Et toutes les apparences du texte sont pour ce que dit Maïmonide. Et quand Baruch avait achevé d'exposer la thèse de Maïmonide, il disait, eh bien, tout ça, ça n'existe pas. Parce qu'il y a des saintes colères. Je ne sais pas si c'est clair. Hein. Il y a effectivement des saintes colères. Pourquoi je vous ai cité ça?
Parce que Moshé était frappé sur Moshé.
Oui.
Non. L'air de Moshé qui est...
Ah non, non. Oui. Non, ça veut dire, quand Moïse n'était plus à même de prier pour le peuple, quelles que soient les fautes du peuple, c'est le signe qui n'est plus à sa place à la tête de ce peuple. C'est-à-dire, je paraphrase, hein, tout se passe comme si Dieu lui dit, Moïse, j'ai pas besoin d'un adjudant, j'ai besoin d'un Moïse. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, tu es plus bon pour le service, passe à Josué. Et Josué dit la Midrash, c'est comme la lumière de la lune par rapport à la lumière du soleil. C'est-à-dire, c'est la lumière du soleil atténuée, mais comme le jour et la nuit. Ça, c'est Josué. Hein. Alors, imaginez après... Et voilà comment il faut comprendre ça. Qui m'a posé la question, c'est vous. Okay. C'est évident que Moïse et Aaron ont pris acte et ont quitté la scène de la direction du peuple. Ils reviendront à la fin des temps pour nous dire leur façon de penser. Bien, et bien, on est arrivé à l'heure. Voilà, encore une question et puis on va faire arbitre.
La spécialité du professeur Baruch, c'était le Tzedek, non?
Oui, le Tzedek.
Tout misé sur...
Le thèse du Tzedek. D'ailleurs, il a révolutionné la psychiatrie en France, mais comme d'habitude, c'est un milieu d'ingratitude absolue. C'est tout juste si on le cite quand on est obligé. Et puis, il m'a raconté l'ingratitude de ses élèves, ça a été épouvantable. Mais il a vraiment révolutionné la psychiatrie. Un jour, je crois que ça vaut la peine, interrogez-moi sur le Tzedek de Baruch. Bien, alors on va faire arbitre et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Je vous signale, je ne sais pas si Esther vous l'a dit, que ce Shabbat, nous avons un Shabbat à Midrash Etroupin, à la place du Shabbat à Gadol, et que dans un mois à peu près, on a un Shabbat à Elon Moré. Ce Shabbat a deux objectifs, d'abord passer un Shabbat ensemble à étudier, et puis, aider de notre présence les gens d'Elon Moré, que Rabbi, on ne sait pas pourquoi, ne semble pas porter dans son cœur. On ne sait pas pourquoi. Alors, à bientôt.